Europe 1.
Votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Les grandes voix se sont installées dans ce studio et pendant une demi-heure, ils sont avec nous, avec vous, pour évidemment analyser l'actualité politique de ces jours-ci, de ces dernières heures, notamment Gérard Carrérou, bonsoir. Bonsoir Mickaël Darmon.
Bonsoir.
Laetitia Krupa, bonsoir et bienvenue.
Bonsoir.
Spécialiste de communication politique, bienvenue à tous. Vous, auditeurs, vous avez votre mot à dire au 39-21. Alors, la polémique sur le port du voile, vous l'avez suivi, ça date déjà de ce week-end. Édouard Philippe a mis les points sur les i en quelque sorte. Aujourd'hui, on l'a entendu dans le journal de Sébastien Krebs, il ne souhaite pas faire une loi sur les accompagnants scolaires. Il a fallu en tout cas que plusieurs ministres donnent de la voix pour que Édouard Philippe mette le holà. C'est une véritable cacophonie, Gérard Carrérou.
Oui, enfin, c'est-à-dire il n'a pas tranché le problème aujourd'hui.
Pas encore, non.
Il a botté en touche. Il a déplacé le problème en parlant surtout des dérives communautaires et de la radicalisation. Mais il n'a pas abordé véritablement le fond, c'est-à-dire le problème du voile.
Mais est-ce que c'est à lui de le faire?
C'est à lui ou au président de la République.
Ça.
Le président de la République, on attend, comme on attend Godot depuis longtemps. Mais simplement, je veux dire juste une chose. Moi, je pense qu'il y a une hypocrisie depuis le début. On ne peut pas dire à la fois ce que j'ai souhaité, comme des millions de Français, qu'il ne faut pas de voile à l'école et que les sorties scolaires, qui sont un simple prolongement de l'école, puisqu'on confie à ce parent ou à cette parente une forme de mission éducative, d'accompagner les enfants, de parler avec eux. Donc c'est la même chose. Et on ne peut pas avoir le voile ici, à l'école, et dès qu'on sort, dès qu'on fait deux pas hors de l'école, dire c'est acceptable, etc. Je considère qu'un jour, il faudra, alors dans un sens ou dans l'autre, mais un jour, il faudra véritablement sortir de cette hypocrisie et trancher le problème. Moi, personnellement, je pense que ce n'est pas une bonne chose. Et d'ailleurs, je suis sur la position de Blanquer,
le ministre de l'Éducation. On est dans le « en même temps » typiquement.
Non, mais en l'occurrence, non, c'est pas en même temps. Il a été très clair, Édouard Philippe, puisqu'il a dit qu'à l'intérieur de l'école, c'était pas permis, les signes religieux, et pour les accompagnateurs, c'était autorisé.
Non, mais
ça
il a simplement rappelé la loi, là.
La loi, c'est donc la position du gouvernement aujourd'hui. Donc ça a été très clair. Donc il ne veut pas loi pour interdire le voile pour les accompagnateurs scolaires. Point.
Oui, mais quand je dis que le débat n'est pas tranché, le débat politique n'est pas tranché.
Et il n'est pas prêt d'être tranché parce que quand on entend les voix de Sibeth Ndiaye et d'autres, la porte-parole du gouvernement, c'est pas rien. Quand elle dit qu'il n'y a pas de difficulté à ce qu'une femme voilée participe à une sortie scolaire, on est loin du compte et on est dans le en même temps. Parce qu'il y a une vraie division.
On a entendu les voix, mais surtout ce qu'on entend, c'est le silence. C'est celui du président
Emmanuel Macron.
Et en fait, pourquoi? Parce qu'en fait, il est pris à son propre piège. Il veut braconner, fracturer la droite. Donc, il ne peut pas dire vraiment ce qu'il pense sur le sujet. Or, sur le sujet, il faut savoir qu'il est quand même beaucoup sur la position de Sibeth Ndiaye. Il est quand même pour une république dans laquelle les communautés sont reconnues. Il avait déjà dit lors de la campagne, on ne va pas les traquer les voiles à la sortie de l'école. Il est quand même pour cela. Souvenez-vous le début du discours de son meeting à Marseille. Bonjour les Arméniens, bonjour les Comoriens, bonjour les Arabes, bonjour les Juifs, bonjour tout le monde, bonjour Marseille. Il est pour une logique communautaire. Et il ne peut pas le dire parce que son logiciel politique, c'est fracturer et braconner la droite.
Et puis parce qu'il a dit des choses aussi au lendemain de la préfecture, au lendemain de l'attaque de la préfecture. Il a été très loin, leader islamiste, on s'en souvient. Ça veut dire qu'il faut avoir une cohérence à un moment.
Or là, il n'en a pas.
Si, il va y aller, mais ça va être du politiquement correct, puisqu'on le sait déjà, ça a déjà fuité de sa discussion hier soir avec ses proches. Toute la presse en est la pleine aujourd'hui. Il ira sur la lutte contre le communautarisme et contre la radicalisation. Donc ça, c'est politiquement correct, puisque tout le monde est contre l'islam politique.
Oui, mais le communautarisme, c'est une forme.
Pas plus loin, parce que déjà, il y a des dissensions sur le sujet de l'immigration. Déjà, il y a des dissensions comme ça qui s'amoncellent au sein de sa majorité. Il y a un moment, il va falloir trancher dans le lard, si je peux me permettre.
Il va falloir trancher, oui. Vous savez, il a fallu 15 ans. Moi, je me souviens de ça, parce que j'ai été un des premiers éditorialistes en 1989, après l'affaire de Creil, à dire « il faut interdire le voile à l'école ». Et ça a été ratifié 15 ans après. Après que Jospin a essayé de ruser et que le Conseil d'État ait dit des choses et que tout le monde a essayé de ruser. Et puis finalement, sous Chirac, en 2005, on a passé une loi qui a interdit. Et là, je pense que c'est la même chose. Il faudra être cohérent.
Il faudra être cohérent. Quand? On verra. Et dans quel sens? On en reparle juste dans une toute petite seconde avec nos grandes voix.
Votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy, c'est jusqu'à 20h sur Europe 1. Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy, entourée des grandes voix jusqu'à 19h. Ce soir, Gérard Carrérou, Mickaël Darmon et Laetitia Krupa, spécialistes de communication politique. Et vous aussi, vous pouvez les interpeller, nos grandes voix. Ça se passe au 39-21.
On revient sur cette question du port du voile, de la laïcité. Emmanuel Macron est pressé de toutes parts hein, de réagir, de s'exprimer. Pour l'instant, pas de date de fixer. Il y a eu une tribune hein, publiée dans Le Monde, entre autres, ce collectif de personnalités hein, qui demande au président de prendre la parole incessamment. Alors, quand est-ce que ce sera, sous quelle forme et jusqu'où pourra aller Emmanuel Macron, Laetitia Crepa, Gérard Carrérou, Michaël Darmon, Laetitia.
D'ailleurs, quand on lit cette tribune, c'est très intéressant puisqu'il demande au président de se positionner pour que les musulmanes, le voilés ou non, les musulmans, pour dire est-ce qu'ils ont, oui ou non, toute leur place dans la société. Et c'est la seule question qui vaille, la question de l'islam dans la République. Aucun politique n'a eu le courage de la poser. À un moment, il va falloir se mettre autour de la table et qu'on ait le courage, voilà, autant les uns que les autres, de poser cette question et d'y répondre.
Et de poser la question de l'égalité des femmes dans l'islam.
Et c'est vrai que juste pour
l'égalité
savoir...
L'égalité avec les hommes.
Il faut savoir qu'au tout début du quinquennat, de multiples réunions ont été tenues à l'Élysée et il a été décidé d'arrêter sur le sujet.
On a Mathieu en ligne avec nous depuis Paris. Bonsoir Mathieu, vous nous avez contacté
oui,
au 3921. Que dites-vous, vous, sur cette polémique aujourd'hui sur le port du voile ?
Alors ce que je dis, c'est que selon moi, le Premier ministre n'a rien tranché du tout. Comme les journalistes disent sur votre antenne, je ne suis pas tout à fait d'accord.
En attendant, on dit tranché en attendant. Vous voyez, il a juste calmé le jeu avant la prise de parole d'Emmanuel Macron.
Il n'a pas calmé le jeu. Il s'est couché devant une forme de communautarisme qui est interdit au sein de l'école et qu'il faudrait interdire aussi dans l'accompagnement des écoliers, puisque j'estime que moi, ce sont du personnel qu'on peut appeler des collaborateurs ou collaboratrices occasionnelles du service public, et que dans ce contexte-là, le port du voile est tout à fait interdit. Je rappelle quand même que la France est fourvoyée avec cette histoire de voile, parce que, souvenez-vous, vous ne l'avez pas évoqué, Nicolas Sarkozy a fait voter la loi contre la burqa et le niqab intégral en France, ça date du 2010, et tous les jours à Paris et en banlieue, je croise des femmes en voile intégrale. Donc la loi n'est jamais appliquée. Et je termine enfin, dans les pays musulmans, en ce moment, où tant de femmes se battent pour retirer le voile, pour essayer d'obtenir plus de liberté et pour montrer que c'est un signe d'asservissement. Nous, en France, on marche sur la tête et on est en train de se poser des questions s'il faut autoriser ou pas le voile.
On le voit. Vous attendez vite Emmanuel Macron sur le sujet ? Ou vous dites que de toute façon...
Excusez-moi ?
Vous attendez vite Emmanuel Macron sur le sujet ? En attendant, vous dites qu'on le voit.
Je sais, la position d'Emmanuel Macron, il va nous faire son en même temps habituel.
C'est ça.
Dans l'interview avec Bourdin et Plenel, il avait dit qu'il n'avait pas de réponse univoque à ce sujet. Donc il sera équivoque, comme d'habitude.
Merci beaucoup Mathieu pour votre appel ce soir sur Europe 1, Mathieu de Paris. C'est ça, je disais, c'est les limites du en même temps. Typiquement, dès qu'il s'agit de sujets régaliens, de toute façon, on voit les difficultés du président de la République.
Ben oui, parce qu'il y a des sujets où on ne peut pas être un peu pour et un peu, ou un peu contre. On est pour ou on est contre. Hein, quand il s'agit de l'avortement, on dit je suis pour une loi permettant l'avortement ou je suis contre. Et ainsi de suite. Les problèmes de société, on ne peut pas trop ruser avec, en tout cas pas trop longtemps.
Cette affaire, elle pose aussi un problème en filigrane qui va aussi monter, je pense, de plus en plus. C'est la capacité de décider du président de la République. Il y a quand même beaucoup de sujets qui aujourd'hui deviennent des problèmes parce qu'il n'y a pas eu de décision.
Parce qu'il n'a pas tranché.
Sur d'autres sujets, on voit bien, Griveaux-Villani à Paris, là, le voile, d'autres sujets encore, parfois la reconstruction territoriale avec le Grand Paris qui s'est arrêté. À chaque fois, il y a un problème de non-décision et on commence peut-être à se poser la question, derrière les aspects extrêmement... parfois très martiaux, verticaux, hein, je veux comprendre, dites-moi, ça ne peut pas durer. Ça ne décide pas. Et ça, on va voir dans quelle mesure ça ne commence pas à devenir un système.
Bon, alors on attend la prise de parole d'Emmanuel Macron. Seule certitude, corrigez-moi si je me trompe, il n'envisage pas de modifier la loi de 1905.
Non, ça c'est sûr.
Ça peut revenir, voilà. une partie.
Bon,
comme ça a été évoqué.
Alors.
À la marge.
On y reviendra évidemment parce que ce sujet va être sur la table pendant un moment. L'actualité à l'international, c'est évidemment la question des Kurdes aujourd'hui et... Donald Trump, on va de surprise en surprise avec le président américain, bien sûr. Il a raffermi son discours. Désormais, le président américain a décidé de prendre des sanctions, bon, surtout symboliques, hein, on ne va pas se mentir, contre plusieurs ministres d'Ankara et le rétablissement des taxes sur l'acier turc après les frappes donc sur les Kurdes. C'est quoi cette volte-face ? Enfin, cette petite
volte-face.
C'est
pas une volte-face, hein, c'est la pression du Congrès, donc il répond
c'est les critiques,
à une,
c'est
il
tout.
Répond à une pression, donc il tweet. Alors aujourd'hui, c'est il tape sur les doigts de trois ministres. Turc, pourquoi pas, mais bon, les démocrates au Congrès ont dit de toute façon ce n'est pas suffisant. Il ne faut pas oublier qu'hier, Il disait, écoutez, laissez donc à ces généraux, laissez donc la Syrie et Assad protéger les Turcs, laissez donc la Turquie se battre. Nous, de toute façon, on est à 7000 km de là, hein, on n'en a un peu rien à faire. Voilà, de toute façon, il poursuit la politique d'Obama. Il a été élu comme Obama sur une politique anti-guerre. Ils ne veulent plus être les gendarmes du monde. Oui, donc là, il menace avec son arme économique.
Donc une fermeté feinte et tardive.
Oui, mais vous savez, Trump, on l'a dit déjà souvent, il ne connaît pas la politique étrangère dans le détail, si j'ose dire. Et l'Orient compliqué dont parlait le général de Gaulle, il ne sait pas ce que ça veut dire. Pour lui, il ne voit qu'une chose, et il l'avait dit dès sa campagne électorale il y a 4 ans, il avait dit, regardez, depuis l'intervention au Liban en 1982, dans laquelle il y a eu un attentat qui a tué 250 Américains, et d'ailleurs aussi 58 Français. Depuis, il y a eu une succession jusqu'à l'intervention en Irak, désastreuse, etc. Et à chaque fois, il y a quand même des soldats américains qui sont morts. Et il avait dit dans sa campagne, moi, je ramène les boys à la maison. Et là, il a au moins une cohérence, c'est que dans toute cette politique, il a le souci, en Afghanistan, il était prêt à négocier et à laisser l'Afghanistan aux talibans. Parce qu'il ne veut plus qu'il y ait de soldats américains. Parce qu'il n'a pas un dessein international comme l'avait Kissinger ou Nixon, même ou des présidents avant lui ou Kennedy.
Je donne juste une information et Michael Daron, je donne parole juste après. C'est que quand même, le vice-président américain va faire le déplacement, figurez-vous. Il part pour la Turquie dans les prochaines 24 heures. Pour une fois, on voit qu'il y a un semblant d'action. Alors, comment ce sera ? À quoi ça sert ? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à en dire ou pas ? On commente en tout cas juste après.
Et votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy, c'est jusqu'à 20h sur Europe 1. Et votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy, entourée des grandes voix jusqu'à 19h. Ce soir, pour débattre, Gérard Carrérou, Michael Darmon et Laetitia Krupa, spécialistes de communication politique. Et toutes vos réactions en direct au 3921 et sur Twitter, hashtag Europe 1.
On revient sur la petite volte-face de Donald Trump. Il raffermit en tout cas son discours aujourd'hui vis-à-vis de la Turquie dans cette offensive sur les Kurdes. Et on apprend ce soir que le vice-président américain Mike Pence va partir pour la Turquie dans les toutes prochaines 24 heures, là à l'instant. Quant à la Turquie, elle poursuivra son opération en Syrie avec ou sans le soutien du monde. C'est là une information qui vient de nous parvenir, signée de la présidence. Michael Darmon, on disait que... il tape d'une certaine manière sur la table, Donald Trump, ou en tout cas il modifie un peu son attitude.
Il tente de faire oublier, mais ce sera quand même difficile, cette espèce d'énorme bourde, parce que plus que bourde, faute, parce que c'est quand même lui qui a donné, comme on dit, licence to kill. Il dit, quand il dit allez-y, pouce baissé, il appelle les Turcs, vous pouvez y aller.
Sur les Kurdes,
c'est quand même, c'est quand même lui qui le fait. Après, il s'aperçoit qu'évidemment ça provoque une protestation mondiale et on est dans une logique d'essayer de rattraper quelque chose. Parce qu'on voit bien, évidemment, que c'est très compliqué sur le plan éthique et moral, diplomatique, et surtout parce que ceux qui se sont engouffrés dans la brèche, bien évidemment, ce sont les Russes. On regarde que les Kurdes, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, Poutine a signé un accord de partenariat très important avec l'Arabie Saoudite, qui était encore il y a quelques semaines le partenaire privilégié des USA. Donc on voit bien qu'à chaque fois que Poutine regarde, il est sur la balle, comme on dit, à chaque fois qu'il y a un retrait américain, lui, il arrive et il comble le vide. Donc il va quand même falloir que l'Amérique tente de réagir.
Il recule de manière ridicule, Gérard Carrérou, parce qu'il a tout le monde, les démocrates, les républicains, le Pentagone, qui le traque d'une certaine manière, en tout cas qui le condamne sur ce lâchage.
Oui, parce que cette bévue-là qu'il a faite, cette faute politique qu'il a faite, elle est plus grosse que celle qu'il avait faite précédemment dans d'autres sujets. Parce qu'elle a créé quand même dans l'opinion internationale... parce que les Kurdes, tout le monde avait compris une chose. Même les gens, s'ils ne savent pas ce qui se passe tellement dans cette région du monde, hélas. Mais ils avaient compris une chose, c'est que les Kurdes, c'était les good guys. Ceux qui étaient contre Daesh et qui nous protégeaient d'une certaine manière contre le terrorisme islamique. Et du coup, écraser les Kurdes, massacrer les Kurdes, courir ces pauvres gens par milliers sur les routes à la recherche d'un havre de paix, c'est une faute extrêmement grave. Alors il a beau essayer de faire des petites mesures du genre trois ministres, je séquestre les biens de trois ministres turcs, etc. C'est des petites choses.
Mais c'est aussi une faute des Occidentaux, des États-Unis et des médias compris, médias occidentaux, d'entretenir le rêve aussi de cet État kurde. Comment on a pu entretenir ce rêve alors que cet État aurait été entouré d'ennemis tout autour. On est aussi fautif de ça, c'est-à-dire qu'on les a confortés dans ce rêve-là, dans cette illusion-là, et maintenant on les lâche.
C'est-à-dire qu'en fait, les Kurdes, ils ont, c'est pas tant les médias qui ont le rêve de l'État kurde, c'est peut-être les Kurdes qui ont aussi le rêve de leur État.
De leur propre État,
bien sûr. Quelque part, ils sont dans cette logique-là. Par rapport, effectivement, à la responsabilité occidentale, allons aussi, puisqu'on lève les hypocrisies ou on tente de les traquer, allons aussi sur le terrain français. Il y a 150 forces spéciales à 200 françaises sur le terrain. Donc, ils savaient depuis quelques jours déjà ce qui allait se passer. On savait ce qui allait se passer avec, au fond, le retrait américain. Et c'est aussi un moment pénible de réal politique pour la France, parce que
elle voit bien que dans ce dossier, sa marge de manœuvre, elle est très faible.
Elle est nulle.
On est avec Yves, en ligne depuis 3. Bonsoir Yves.
Oui, bonsoir.
Trump qui envoie son ministre, entre autres, son vice-président américain, ça ou rien ?
Oh, je trouve ça absolument stupéfiant et je crois que ça démontre bien en fait la dangerosité de ce personnage qui retourne à la Maison-Blanche parce que d'une part il est à l'origine en fait de la situation que nous connaissons aujourd'hui, mais par ailleurs, aujourd'hui il subit la pression notamment de son opinion publique, mais je crois que dans le même temps il se rend compte déjà qu'il a commis une première faute, mais la deuxième faute qu'il commet, maintenant il se précipite ou il fait précipiter ses représentants en Turquie, parce qu'on lui a simplement rappelé, je pense que les militaires du Pentagone ont dû le lui rappeler, que vraisemblablement il y a encore beaucoup de troupes américaines en Turquie, il y a notamment l'une des plus grandes bases américaines dans le monde qui se trouve, je crois, à Isirlik, et notamment, et je crois que les intérêts américains là-bas sont encore considérables. Et il y a un deuxième constat à faire, et c'est ça, c'est tragique, c'est l'impuissance terrible des Européens dans cette situation, parce que je crois que là, on mesure combien l'Europe est incapable aujourd'hui de peser et qu'on est en train de donner les clés du Moyen-Orient, notamment à Poutine. Je crois que si j'ai un simple souhait à faire, un modeste souhait, si au moins la France pouvait exister par un geste qui ait quelque allure dans la situation présente, c'est que notre président, qui d'un silence quand même un peu inquiétant et déroutant, prenne un avion, aille à Ankara et essaye de rencontrer le président Erdogan. Je sais bien que ça ne gênera pas Erdogan, mais au moins ça aurait un peu d'allure et l'Europe sera au moins représentée.
Comme voilà, Mitterrand à Sarajevo, un geste de ce genre.
Merci beaucoup, en tout cas pour votre intervention Yves, ce soir en direct sur Europe 1. On l'a dit, redit, Donald Trump et ses sanctions, les marges de manœuvre très faibles de la France et donc le grand vainqueur pour l'instant, Vladimir Poutine. Merci à tous les trois, les grandes voix ce soir en direct sur Europe 1. Merci à vous. Europe 1.